François Xavier Chauchat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et membre du comité d'investissement de Dorval AM. On va parler avec vous, bien sûr, de marché, d'économie. On a vu bien sûr, les banques centrales agir avec un peu de recul le peu de recul que vous pouvez avoir aujourd'hui. Comment vous analysez ce qui est en train de se passer du côté des banques centrales?
Ce qui est en train de se passer, c'est qu'elles veulent prolonger le cycle. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que très souvent, avec la maturité du cycle aujourd'hui, hein, 11e année de croissance consécutive aux États-Unis, même en Europe, on a fait le plus bas en 2013, on est en 2019, les taux de chômage dans la plupart des pays développés sont au plus bas, mais la chance qu'on a, c'est qu'il n'y a pas d'inflation. Et le fait qu'il n'y ait pas d'inflation permet aux banques centrales d'agir essentiellement sur la continuation du cycle face aux risques baissiers qu'on connaît bien, qui sont une quasi-récession industrielle avec l'automobile, les semi-conducteurs, la guerre commerciale qui assèche le commerce mondial et diminue l'investissement, plus ici et là des problèmes sectoriels. Donc aujourd'hui, c'est une grande chance d'avoir des banques centrales qui peuvent, alors avec quelle efficacité c'est un sujet, mais qui peuvent au moins donner le signal que leur priorité n'est pas de contenir telle ou telle surchauffe, mais bien de continuer le cycle.
Oui, parce qu'on a pu voir avec les événements géopolitiques, notamment sur le pétrole en Arabie Saoudite, que dès que c'est arrivé, il y a eu même peut-être des commentaires humoristiques en disant: Ah, voilà l'inflation qui arrive, du coup les banques centrales sont tranquilles, l'inflation est là, puisqu'elles n'arrivent pas, comme vous l'avez rappelé, à finalement à faire en sorte que leurs objectifs d'inflation soient tenus.
Alors justement, à ce propos-là, la hausse des prix du pétrole n'est pas exactement une inflation. Hein, une hausse des prix et l'inflation, c'est différent. L'inflation, c'est un phénomène généralisé. La hausse des prix du pétrole, c'est un prix relatif. Mais c'est un sujet très important parce que on vient de parler de maturité du cycle. Qu'est-ce qui met fin à un cycle? D'abord, les cycles ne meurent pas de vieillesse. Il faut quelque chose. Il y a des pays, par exemple, l'Australie n'a pas connu de récession depuis 28 ans. Donc, ce n'est pas dit a priori que la récession est nécessairement au bout de 10 ans ou 5 ans, non. Mais il y a des éléments classiques qu'on connaît. En général, pour mettre fin à un cycle, une bonne crise financière, ça vous met la récession à la porte. C'est ce qu'on a connu en 2007, aussi avec l'éclatement de la bulle d'Internet en 2000. Donc ça, ce sont un candidat classique. Autre candidat classique, justement l'inflation qui monte, les banques centrales qui montent les taux pour lutter contre cette inflation, hop, ça vous crée aussi une récession. Et puis vous avez ce genre d'événement qui, donc choc pétrolier, on a connu ça en 73, 79, il y a eu plusieurs épisodes. Même en 2007-2008, hein, les prix du pétrole ont été jusqu'à 150 dollars, ça a participé aussi à tout ça. Donc forcément, quand l'histoire iranienne est arrivée, ou saoudienne, eh bien il y a le candidat, c'est un candidat possible. Mais on voit qu'en fait, il ne s'agit pas d'un choc fondamental parce que bon, la production saoudienne peut repartir, pas tout de suite, mais plus tard, que aussi dans un marché pétrolier où il y a beaucoup d'acteurs, en particulier américains,
Mais
qui
qu'on puisse
peuvent
aller sur les
compenser.
stocks
Voilà,
ou
donc non, on verra s'il y a une guerre avec l'Iran. Oui, mais sinon, non, on manque de candidats pour nous dire que la récession arrive.
Alors, il y a eu un phénomène que connaissent bien les investisseurs, c'est l'inversion de la courbe des taux. Il y a quelques mois, quand on parlait d'inversion de la courbe des taux, le discours ambiant était de dire oui, mais c'est parce que les banques centrales ont cette politique que vous avez rappelée. Et puis, il y a quelques semaines, quand effectivement, à nouveau, il y a eu un peu de peur sur le marché, sur cette courbe des taux, on a dit, ah, de toute façon, il y a eu cette inversion, il y a cette inversion. Donc,
Donc à terme,
effectivement, dans quelques mois, on aura les conséquences de cette inversion.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est un peu mystérieux, hein, cette histoire de l'inversion de courbe. Bon, d'abord, on est en train de parler d'un nombre d'épisodes relativement faible, hein, 7 ou 8 récessions depuis les années 60, qui à chaque fois, c'est vrai, sauf en 65, 66, ont été précédés d'une inversion de la courbe. Mais précédés parfois de 2 mois, parfois de 18 mois. Alors, déjà, on voit bien qu'on est déjà dans des domaines beaucoup plus flous. Et ça, il n'empêche que chaque récession a bien été précédée ou déclenchée par un des éléments dont je vous parle, crise financière, inflation aux États ou choc pétrolier, ça n'empêche pas. Donc, les économistes, leur réflexe est toujours de dire, attention, il n'y a pas de martingale. Prenons un ensemble d'indicateurs. C'est ce qu'on appelle par exemple les indicateurs avancés, hein, qui sont faits par l'équivalent un peu du MEDEF aux États-Unis, le Conference Board, ils ont sélectionné une dizaine d'indicateurs, dont la courbe des taux. Mais ce n'est que un des indicateurs. Et aujourd'hui, les gens qui travaillent là-dessus, alors, il faut être honnête, il y a des gens qui anticipent une récession dans les 12 mois aux États-Unis. Parce qu'ils voient cette courbe des taux qui s'inverse et d'autres indicateurs d'épuisement un peu du cycle. Bon, c'est tout à fait possible, hein. Mais aujourd'hui, quand on prend les mêmes indicateurs sur lesquels on se base depuis toujours, une récession imminente, il faudrait plus que ça. Et là vient forcément le candidat qu'on n'a jamais connu jusque-là, mais qui est présent, qui est la guerre commerciale.
Oui.
Et là, on n'a pas de recul.
Oui, on voit des conséquences pour les entreprises. Vous parliez du secteur automobile. Voilà, on a vu clairement sur ce marché-là. Il y a aussi effectivement la thématique de se dire, voilà, on arrive à ce cycle, vous l'avez rappelé, il est quand même assez long. La guerre commerciale, on commence à voir les impacts. Donc on commence à s'inquiéter. On se dit, l'univers 2020, il commence à y avoir un certain nombre de nuages. C'est-à-dire qu'on les a peut-être mis de côté. On dit les investisseurs chaussent leurs lunettes roses. Et là, ils commencent à être un peu plus inquiets.
Alors, les lunettes roses des investisseurs, on ne le voit pas aujourd'hui. Toutes les enquêtes qui sont faites auprès des investisseurs, des analystes, surtout en Europe, sont noires. Ça se calme un peu depuis quelques jours, je dirais, mais le mois d'août, on a vu, vous savez, par exemple sur Google, le nombre de gens dans le monde qui ont tapé le mot récession était au plus haut depuis 2009. Donc, il y a eu une vraie angoisse. Simplement, il faut quand même regarder les choses en face. Ce qui crée l'angoisse, c'est la guerre commerciale. Il y a une incertitude profonde depuis le début de cette guerre commerciale sur son impact. Les économistes ne sont pas divisés, mais ils s'interrogent. Parce que les canaux de transmission indirects sont plus puissants, semble-t-il, que directs. Directement, ce n'est pas grand-chose. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis représente 3,5% du commerce mondial, donc 600 milliards sur 18 000 milliards de commerce mondial. Donc ce n'est pas grand-chose. Mais les effets indirects sur l'investissement, sur ce qu'on appelle l'animal spirit, les esprits animaux, l'investissement, la volonté d'investir, ont été de plus en plus forts. Et surtout, et ça c'est très important par rapport à ce que on ressent aux États-Unis et qui est très récent. C'est seulement depuis quelques semaines que partout aux États-Unis, à la Fed, dans les entreprises et même chez les consommateurs et dans les médias, cette idée que la guerre commerciale impacte désormais l'économie américaine est présente. Et c'est la première fois. C'est très important parce que ça veut dire que, un, si cet impact se matérialise plus, évidemment, la Federal Reserve va énormément baisser les taux. Et deuxièmement, que ça a atteint la Maison-Blanche, qui, du coup, pourrait retenir son bras.
Oui, on a vu sur des questions de date pour éviter que les consommateurs américains soient affectés à Noël. Si on conclut sur l'allocation d'actifs dans ce contexte de taux très bas, on ne va pas rappeler les trillions de dollars de taux négatifs, en euros également, bien sûr, l'allocation d'actifs, comment elle évolue?
Alors, l'allocation d'actifs basée sur le cycle économique est quasiment impossible à faire aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de dynamique cyclique particulière. Il y a une récession industrielle qui semble se prolonger. Il n'y a pas de récession dans le reste de l'économie. Il y a une économie à deux vitesses. Toute l'économie qui est favorisée par la baisse des taux, l'immobilier, la construction, tout ça, la moindre austérité budgétaire dans les pays, la relance chinoise, tout ça, c'est une économie qui fonctionne, même si elle ralentit un peu. Puis il y a une récession industrielle qui est due à la guerre commerciale ou au coup de friction de la transition énergétique dans l'automobile et donc aux effets des risques politiques sur l'investissement. Il y a un équilibre, je dirais, entre donc, ces forces récessives et les contre-feux à ces forces récessives, dont la baisse des taux. En revanche, ce qui se passe et qui commence à prendre beaucoup d'ampleur dans les réflexions des gens, surtout en Europe, c'est les taux négatifs, donc que faire de son argent? Nous, dans notre allocation, par exemple, internationale, ce qu'on fait, c'est qu'on a une approche assez, ce qu'on appelle blend, où on a à la fois beaucoup de valeurs de rendement en action, avec l'idée que un certain nombre d'investisseurs institutionnels vont finir, malgré les réglementations défavorables, par trouver des tuyauteries pour aller quand même vers les actions, qui est l'actif le moins cher aujourd'hui. C'est moins cher que les obligations, c'est moins cher que le private equity, que l'immobilier, que tout ce que vous voulez. Donc les PER, les rapports court-bénéfice, sont normaux, alors que tous les autres prix sont anormaux, comme les taux négatifs. Donc il faut bien trouver des tuyauteries. Donc on a des valeurs de rendement, des valeurs de croissance, mais et ça me distingue un petit peu peut-être d'autres maisons, on reste sur l'idée que le cycle n'est pas mort, qu'il peut y avoir à terme, peut-être pas tout de suite, mais un peu plus tard, d'ici la fin de l'année, début 2020, une stabilisation de l'industrie, si Trump retient son bras, si les coûts de friction dans l'automobile commencent à diminuer, et donc avoir quand même des cycliques en complément de ce portefeuille basé sur les rendements et la croissance. Donc un univers très large, et je terminerai par un point essentiel, c'est que l'univers des petites et moyennes valeurs a été en Europe un univers assez paradoxal, où le leadership des profits est toujours chez les petites et moyennes valeurs, mais elles ont été vendues par peur du marché, de phénomènes de liquidité. Et donc aujourd'hui, elles sont beaucoup moins chères que les grandes, et ça, il faudra en profiter.
Voilà, ben il y en a plein sur la Bourse et la vie à observer et qui viennent de publier leurs résultats. Merci François-Xavier Chauchat d'avoir été avec nous.
Merci.